Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. À la rencontre des Sioux Lakota, rêveur de tonnerre, de Maurice Rebex. Suite. Suite d'un attrapeur d'ombre chez les rêveurs de tonnerre. Cette quête d'image m'amena à parcourir l'espace géographique, mais aussi à traverser le temps. Les lieux fondamentaux de la spiritualité Lakota semblent, en effet, toujours chargés d'un mystérieux pouvoir. D'une secrète magie. Sans doute lié à la compréhension de la nature qu'ont les Indiens, à leur proximité avec ces choses de l'univers dont parlait Curtis en son temps. Au cours des ans, j'effectuais de fréquents périples au sein de l'État du Dakota du Sud, mais aussi dans les États limitrophes du Minnesota, du Nebraska, du Wyoming et du Montana, c'est-à-dire à travers le vaste territoire traditionnellement attaché au nomadisme des tribus Sioux. Cependant, pour l'essentiel, la majeure partie de mes séjours se déroula sur le territoire de la Rosebud Indian Reservation, parmi les membres de la Rosebud Sioux Tribe, la tribu Sioux de Rosebud. Tracée à la règle par un fonctionnaire fédéral sur la carte du Dakota du Sud, cette réserve forme un rectangle parfait qui s'étend sur 125 km d'est en ouest et 40 km du nord au sud, où sa limite méridionale vient faire frontière commune avec l'État du Nebraska. À l'exception de quelques zones boisées, notamment celle des Grace Mountain, le long de la Little White River, le paysage de Rosebud est typique de celui des Grandes Plaines. Le regard y porte à perte de vue sur l'immense prairie américaine, ondulante et mamelonnée, où levées et couchées de soleil sont souvent d'une fulgurante beauté. À sa création, en 1877, cette réserve fut attribuée au chef Shintegleshka, Spotted Tail, que tacheté, et à sa tribu des Sikangu, prononcée Sitchangro, littéralement cuisse brûlée, nom dont cette bande fut baptisée après un immense feu de prairie, au cours duquel certains ne durent leur salut qu'à un plongeon dans la rivière ou le lac le plus proche. Ce sont des trappeurs français, encore eux, qui nommèrent les Sitchangro, brûlés, termes dont on les désigne encore officiellement, même si la prononciation américaine « brûlé » n'en rappelle plus guère l'origine francophone. Les Sitchangro constituent une des sept tribus des Sioux Titomwan, tétons de l'Ouest, connus sous le nom de Lakota en référence à leur langue commune. Ces sept tribus font elles-mêmes partie d'un ensemble plus vaste, Otcheti-Sakowin, les sept feux du conseil, rassemblant d'autres groupes de racines linguistiques Siouan. À l'est, les Shanties s'expriment en dialecte Dakota. Au centre, les Iang Tongwan parlent, eux, le Nakota. Pourquoi me suis-je ainsi attaché à Rosebud? Pourquoi le choix de cette réserve-là plutôt qu'une autre? Aujourd'hui encore, la question me laisse sans véritable réponse. Une chose est sûre pourtant. Ce choix ne fut pas le fruit d'une décision délibérée, ni d'une réflexion approfondie. Et s'il faut vraiment parler de choix, il me semble légitime de considérer que c'est Rosebud qui m'a choisi bien plus que je ne le fis moi-même. Mon approche personnelle, loin de s'inscrire dans l'ordre d'une quelconque logique, sociologique, ethnologique, anthropologique ou quoi que ce soit d'autre de cette sorte, ne me sembla relever que du très banal enchaînement des circonstances, du simple hasard des rencontres. Mais une chose telle que le hasard, existe-t-elle vraiment en terre indienne? Les Lakota aiment à penser qu'il se trouve « a rhythm for everything », une raison pour chaque chose. Dans leur bouche, le terme « coïncidence » retrouve la plénitude de son sens originel. « Coïncidence », en effet. En tout état de cause, étrangers visitant une population plutôt distante et repliée sur elle-même, photographes plongeant au cœur d'une communauté scandaleusement démunie, en butte à la discrimination et peu encline à se laisser mettre en boîte, j'ai pourtant vu se tisser et se nouer des relations durables avec un nombre toujours grandissant de personnes. Quelques-uns de ceux que je rencontrais dès les toutes premières heures y furent pour beaucoup, qui tout à la fois me guidèrent, me parrainèrent et allèrent d'une certaine façon, jusqu'à se porter garant pour moi, m'introduisant auprès de leurs proches ou de leurs amis. Pour quelle raison? Il m'est difficile de le dire. Rien ne me permet d'expliquer de manière satisfaisante pourquoi c'est avec ces gens-là, sur ce territoire-là et à ce moment-là, que j'entamais mes prises de vue. Toujours est-il qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, certains des liens que mon épouse et moi-même entretenons sur cette réserve sont devenus d'une nature que je ne saurais qualifier autrement que de familiale. On l'a déjà compris. Les portraits instantanés rassemblés ici ont donc tous été effectués avec l'agrément clairement exprimé des personnes concernées. Des rapports d'échange et d'entraide ont certes présidé en permanence à la menée de ce projet, mais jamais aucune photographie ne fut la conséquence d'une négociation d'ordre commercial. La photographie qui accompagne cet écrit représente un panneau posé sur un petit sentier au milieu des bois. Un panneau apposé le long d'un sentier de Bear Butte, invitant les promeneurs à ne pas perturber le déroulement des cérémonies traditionnelles en Blechea, quête de vision. Indiens en prière, ne pas franchir ce point. Indians praying, do not pass beyond this point. Dans le respect de la tradition et afin de ne pas déranger les esprits, invoqués lors des différents rituels, aucune cérémonie ne fit jamais l'objet de prise de vue, et aucune demande ne fut jamais non plus formulée dans ce sens. Cela eut d'ailleurs sans doute été requis en vain, tant les Lakota restent farouchement attachés à protéger les secrets qui entourent leur rite. J'ai pu, au fil des ans, assister et même participer à de nombreuses cérémonies, de différents types et en différents endroits. À aucune de ces occasions, les appareils ne quittèrent le coffre de mon véhicule. Aussi aurais-je été autorisé à les photographier que je m'en serais d'ailleurs défié, ne souhaitant en rien contribuer aux tristes dérives récemment apparues dans la foulée de la vogue New Age. L'été, sur les réserves, on croise en effet de plus en plus de non-indiens en quête d'une forme de spiritualité qui puisse les réconcilier avec la religion. Plus ou moins bien acceptés par les Lakota, selon les cas, leurs intentions sont parfois sincères et respectueuses. Mais certains d'entre eux, dénués de tout scrupule, semblent n'avoir qu'une chose en tête, pouvoir rentrer chez eux, en clamant haut et fort avoir été initiés au rite magique dont on leur parle dans les livres. Une telle ambition prête évidemment à sourire. Elle a cependant tendance à se répandre. Après avoir été spoliés de leurs terres, privés de leurs droits, forcés à un mode de vie qui n'était pas le leur, les Indiens d'Amérique font aujourd'hui face à une nouvelle vague prédatrice d'hommes blancs. Onctueux et tout sourire, ceux-là viennent pour tenter de s'approprier ce qui reste, l'ultime patrimoine des Lakota, les voies sacrées de leurs ancêtres. La tentative est aussi vaine qu'illusoire. Bien sûr, il se trouve pourtant de tels initiés, autoproclamés, pour aller jusqu'à se présenter comme des guérisseurs, à la mode Lakota. Est-ce assez de dire que l'enflure de leurs prétentions n'a d'égal que l'étendue de leur ignorance? Évidemment, et quoi qu'ils disent, ces usurpateurs sont privés de toute forme de reconnaissance parmi les Lakota eux-mêmes. Pourtant, certains, c'est même le cas aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, vont jusqu'à prétendre improviser chez eux de sordides et pathétiques caricatures de « danse du soleil ». Les guillemets s'imposent. De pitoyables farces au cours desquelles l'imposture le dispute au ridicule. Ces pseudo-cérémonies, fondées sur la tromperie et le mensonge, ne reçoivent l'aval d'aucune autorité traditionnelle véritable. Cela va de soi. Quels que soient leurs invités de circonstance, les indécrottables visages pâles, qui sont à l'origine de ces mises en scène parodiques, ne perpétuent en réalité qu'une seule tradition, celle du pillage éhonté et systématique de la culture et de la spiritualité indienne. Pas dupe, des intérêts très prosaïques qui sont en jeu derrière d'aussi grossières falsifications de leurs rites. Les Lakota, à la fois révulsés et saisis d'ennui devant l'inéluctable cupidité du monde de l'homme blanc, détournent le regard en se remémorant l'adage « In the absence of the sacred, everything is for sale. » En l'absence du sacré, tout est à vendre. À des années-lumière de tout cela, plusieurs des Lakota dont le portrait figure au sein de ce livre sont, eux, d'authentiques hommes médecine, c'est-à-dire, très simplement, des individus reconnus par leur peuple comme détenteurs de savoirs traditionnels. Différents ouvrages font déjà publiquement référence dans ce sens à Leonard Crowdog, Archifier Lamdir ou Cello Black Crow, pour ne citer qu'eux. D'autres, en revanche, sont des personnes dont les visions et les dons spirituels ne sont connus qu'à l'intérieur de leur réserve, village ou clan. Dans ces cas-là, il ne m'a pas paru judicieux ou approprié de le révéler ici. De façon comparable, certains dont j'ai eu l'occasion de saisir l'image ont, depuis, entamé leur voyage de retour vers le monde des esprits. Pour des raisons que je qualifierais de personnelles, je n'ai pas non plus jugé nécessaire de l'indiquer systématiquement. Enfin, quelques portraits furent réalisés loin de Rosebud, tels ceux de Léonard Pelletier, toujours emprisonné dans le Kansas, et de John Trudell, croisé sur la route, lors de l'une de ses tournées de concert. Hey, oh, hey, oh. Francis Jeffard, directeur de cette collection, et moi-même avons tenu à ce que des voix indiennes soient intimement associées aux images de ce livre. La chose fut grandement facilitée par Richard Erdős, photographe et écrivain autrichien, supporteur de la cause indienne et ami de longue date des Sioux. En son temps, John Feyerlandir, l'ancien, avait littéralement reconnu en Erdős celui qui saurait traduire sa parole en écrit. De leur collaboration naquit un best-seller, Lemdir Seeker of Visions, paru en 1972 et traduit plus tard en français sous le titre De mémoire indienne, aux éditions Plon en 1977. Prolongeant sa complicité avec d'autres auteurs, Richard Erdős allait co-signer ensuite de nombreux ouvrages, dont ceux de Mary Brave Bird, d'Archie Feyerlandir et de Leonard Krodog, tous originaires de Rosebud, comme John Fire lui-même. Toutes les cérémonies Lakota se terminent par les mots « Mita Koye Oyasin » qui signifie « à tous mes proches », déclare Archie Feyerlandir sous la plume d'Erdős. Ils indiquent que nous avons prié pour tous nos proches, ce qui inclut tous les êtres humains sur cette terre et tout ce qui vit, tous les animaux, même l'insecte le plus minuscule et toutes les plantes, y compris la fleur sauvage, la plus frêle. Au cœur de l'empire économique nord-américain, dans un monde régi par le matérialisme, où le dollar règne en maître, les Sioux, tribus aux origines immémoriales et mystérieuses, continuent donc d'envoyer leurs prières vers Mita Koye Oyasin. Et ce Makazi Tom Nian, tout autour de la terre. Ces rêveurs de tonnerre, affirmant le lien qui unit toutes les formes du vivant, nous incluent donc nous aussi, lointains frères humains, dont leur rencontre généra pourtant ce qu'on sait, dans leur adresse au grand esprit, à ce grand-père tutélaire, présent pour eux en toutes choses et en tout être. Face à l'existence de tels liens, peut-être le moment est-il venu pour nous d'admettre que, cohabitant vaille que vaille sur cette planète avec les systèmes sociaux, étatiques et religieux les plus intolérants et les plus oppressifs, de petits groupes humains survivant toujours sous la forme de nations encore solidement constituées, telles celles des Lakota, ont su préserver envers et contre tout ce qui n'a jamais cessé de constituer leur bien le plus cher. Un bien devenu dorénavant précieux à l'humanité tout entière. Quel est ce bien ? Non seulement une philosophie de l'univers empreinte de sagesse, mais bien plus encore, la méthode cognitive, la forme ancestrale de savoir dont cette philosophie procède. Dans ce qu'il subsiste aujourd'hui de ce savoir, nous-mêmes, descendants d'autres chasseurs-cueilleurs. Trouvons de quoi renouer le contact avec nos propres origines, avec ceux de nos ancêtres qui, peignant des cerfs et des bisons sur les murs de leurs grottes ou dressant des alignements de pierres à l'orientation toujours inexpliquée, exprimaient du monde alentour une vision spirituelle et par essence imprégnée de respect. Si le degré de civilisation d'un groupe humain se mesure à l'harmonie de ses rapports avec l'environnement, notre cote est au plus bas. Cet amer constat n'est pas celui d'un sorcier agitant son hochet. Il est émis par Hubert Reeves, astrophysicien de renom. Les chants Lakota, comme tous les chants anciens des peuples premiers de la Terre, disent une profonde compréhension spirituelle de la vie, de notre vie aussi bien que de toutes les vies, qui, sous un nombre infini de formes, nous entourent, et nous accompagne. Qui sait, peut-être ces chants, survivances du passé, nous invitent-ils à retrouver d'anciennes facultés, d'anciennes formes intuitives de relation à la nature que nous, civilisés, aurions depuis longtemps perdues. Comme Hubert Reeves lui-même, la communauté des astrophysiciens, scrutateurs de l'infiniment grand, nous annonce que l'univers est courbe. Et les biogénéticiens penchés, eux, sur l'infiniment petit, nous disent que l'ADN, source de vie, a la forme d'une spirale tournant sur elle-même. Bien avant ces découvertes, le visionnaire Lakota et Aka Chapa, Black Elk, élan noir, nous avait déjà à sa façon révélé tenir ses connaissances de ses ancêtres. Vous avez remarqué que toute chose, faite par un Indien, est dans un cercle. Il en est ainsi parce que le pouvoir de l'univers agit selon des cercles, et que toute chose tend à être ronde. Cette connaissance nous vint de l'autre monde, avec notre religion. Tout ce que fait le pouvoir de l'univers se fait dans un cercle. Le cercle est rond, et j'ai entendu dire que la Terre est ronde, comme une balle, et que les étoiles le sont aussi. Le vent au sommet de sa fureur tourbillonne. Les oiseaux font leur nid en cercle, parce qu'ils ont la même religion que nous. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même, et tous deux sont ronds. Même les saisons forment un grand cercle dans leur changement et reviennent toujours où elles étaient. La vie de l'homme est dans un cercle, de l'enfance jusqu'à l'enfance. Et ainsi en est-il pour chaque chose où le pouvoir se meut. Nos tipis étaient ronds comme les nids des oiseaux et toujours disposés en cercle. Le cercle de la nation. Le nid des nombreux nids. Où le grand esprit nous destinait à couver nos enfants. Ainsi les valeurs fondatrices attachées à la société Lakota rejoignent-elles, à leur manière, les plus abouties de nos propres découvertes scientifiques. Acceptons d'y voir un signe, celui qu'il est possible de vivre ensemble, côte à côte, sans que l'un soit toujours tenu d'écraser l'autre. Le savoir sacré des Lakota, comme celui d'autres peuples indigènes sur tous les continents, constitue un patrimoine qu'il paraît urgent et judicieux d'accepter comme partie intégrante de l'héritage humain universel. Un patrimoine que nous aurions tort de négliger plus longtemps, du haut de notre arrogance de puissance mondiale. Nous, qui nous prétendons trop souvent les seuls et uniques détenteurs de la science. En vérité, ce patrimoine, nous commençons à lui tendre l'oreille, et pour cause. À force d'abus, de gâchis, de déséquilibre et d'injustice, notre relation à l'écosystème même de la planète paraît soudain menacée, et les clés semblent désormais manquer, qui nous permettraient de prévoir un avenir plus que jamais incertain. En ancien de Rosebud, ne s'y est pas trompé. Aujourd'hui, 7 générations plus tard, vous vous tournez vers nous, alors que votre propre culture connaît la faillite. La terre que vous nous avez prise, dont vous nous avez dépossédés par le mensonge, est devenue trop empoisonnée pour vous nourrir. Vos rivières et ruisseaux sont mourants. Je me demande pourquoi vous vous tournez vers nous maintenant. Est-ce parce que, malgré tout, nous n'avons jamais cessé de prier? Jamais cessé de frapper nos tambours, de danser et de chanter nos chants au Créateur? En fin de compte, vous n'avez pu nous réduire au silence. Que dire d'autre sinon l'espoir? L'espoir dans un avenir qui vienne conforter le chef Arbol Looking Horse, gardien de la pipe sacrée des Lakota pour la 19e génération, lorsqu'il déclare: La prophétie se réalise. Wolakota, la paix et l'harmonie du monde de nos pères revient, le cercle sacré se recompose. Aho! Au moment de conclure, qu'il me soit permis d'exprimer ici ma profonde reconnaissance à l'égard des Lakota en général. Bien au-delà de la réalisation de ce livre, la rencontre de leur société, de leurs valeurs, de leur monde intérieur, de leurs coutumes et de leurs cérémonies aura constitué l'un des enseignements, l'un des dons les plus précieux que l'existence m'ait offert, au point de m'avoir affecté aujourd'hui au plus profond de mon être, de ma chair même, oserais-je dire. Ne voulant me considérer que comme le simple dépositaire de ce don qui m'honore, je forme ici des vœux pour que l'indéfectible fidélité aux voix de leurs ancêtres, l'abnégation devant l'adversité et le profond sens du partage qui caractérise les Lakota trouvent, au fil de ces pages, un reflet juste et respectueux. Aomitakuyepi, Uyachante, Washteyanape, Chuzapelo. Salut ma parenté, à vous tous, le cœur bon, j'offre ma main pour la marier avec la vôtre. Maurice Rebex, 8 mai 2002. Écrit dans les Alpes de Haute-Provence. C'était Rêveur de tonnerre à la rencontre des Sioux Lakota. Suite dans notre prochaine émission. Amérindien. Portrait, lutte et reconnaissance. À bientôt dans la quatrième dimension.